Bonsoir, vous écoutez Radio Campus pour une heure de politique avec l'émission Panthère Rouge. Décembre 2008, en Grèce, des manifestations et surtout des affrontements avec les forces de l'ordre se sont multipliés pendant des semaines. Aujourd'hui, les Grecs sont de nouveau dans la rue pour une toute autre raison, le plan d'austérité appliqué par le gouvernement. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec une nouvelle voix, Cécile, qui nous a rejoint pour quelques émissions, j'espère. Donc on va parler de la Grèce en 2008 et de la Grèce aujourd'hui, d'une manière plutôt économique. Et enfin, on aura une chronique femme super-héros sur Germaine...
Non, sur Madeleine Reberiot.
J'y suis presque. Voilà, c'est parti. Commence notre sujet sur la Grèce avec un reportage réalisé par une journaliste sur le site du Monde. En fait, c'est un reportage qui a été fait jeudi dernier.
Des milliers de personnes viennent de manifester dans le centre d'Athènes devant le Parlement. Et il s'agit pour la plupart des membres du Parti communiste grec. Et il s'agit de la première mobilisation contre le nouveau paquet de mesures d'austérité que le gouvernement socialiste a annoncé la veille pour parer à la grave crise financière. À 200 mètres de ce rassemblement, quelques milliers de personnes, des fonctionnaires et des adhérents du Parti de la gauche radicale brandissaient des banderoles où on pourrait lire nationaliser les banques et poser les riches, lutte contre les mesures populaire, on ne va pas payer pour leur crise. La circulation a été interrompue pour plus de 2 heures dans le centre-ville, tandis que de portantes forces policières étaient présentes. Les fonctionnaires prévoient également un arrêt de travail de 3 heures demain, vendredi à midi. Ils doivent se rassembler devant le Parlement où les mesures d'austérité doivent être discutées et adoptées en procédure d'urgence.
Voilà, donc vous venez d'écouter un reportage réalisé jeudi sur... le site du Monde. Depuis, donc, les réactions des Grecs, ça a continué. En fait, il y a eu d'autres manifestations et c'était un peu plus musclé. Et le sujet justement du début d'émission, c'est de revenir sur un épisode assez musclé, c'était les affrontements de 2008, les émeutes de 2008, de décembre 2008. Et alors pour commencer cette partie, j'ai avec moi Cécile. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Qui va m'interroger quand je vais être, peut-être je vais manquer d'exactitude ou de rigueur. Voilà, donc en décembre 2008, il y a eu beaucoup de manifestations suite à la mort d'un lycéen. C'est ça, en fait, il avait 15 ans, peut-être même qu'il était collégien, tué par balle par la police. Et pendant des semaines, il y a eu des affrontements, et c'était des mouvements entièrement spontanés et qui se sont étendus à toute la Grèce. Alors j'en avais parlé un peu l'année dernière, et j'avais essayé d'expliquer quels étaient les éléments qui pouvaient expliquer l'importance du mouvement. Donc le premier élément, c'était l'incurie de l'État, le fait qu'il y ait de la corruption, du clientélisme dans l'État, et aussi l'incapacité à assurer les conditions élémentaires de la vie sociale. Avec l'exemple important qui était pendant les incendies de 2007, l'État était complètement débordé, c'était les citoyens aidés des télévisions qui souvent dirigeaient les pompiers dans leur opération. Et au final, il y a eu plus de 60 morts à cause des incendies. Voilà. Alors, une deuxième partie importante, c'était la dégradation de l'enseignement. La Grèce est le pays d'Europe ayant le plus de diplômés. Mais le budget pour l'enseignement est le plus petit en Europe. Il représente 3,5% de son budget national. Et pourtant, elle se hisse toutefois au premier rang pour les dépenses des ménages allouées à l'éducation. Et c'est des dépenses qui sont égales en volume à celles de l'État.
Oui, corollaire normal, quoi. En fait, voilà, c'est les gens qui doivent payer des cours privés pour leurs enfants puisque l'école est défaillante.
Oui, et ils pensent vraiment que l'école peut être une issue sociale encore. Ils défendent ça, cette idée d'aller à l'école. Et alors, le corollaire forcé également, c'est l'émergence d'entreprises spécialisées dans le soutien scolaire, de cours privés, d'établissements privés, censés fournir des formations professionnelles, voire même des formations universitaires. Et donc, en plus, il y a eu, à partir de 2006, une réforme de l'université, et en fait, due aux accords de Bologne, en fait, l'application partout, dans tous les pays d'Europe, mais notamment pour la Grèce, et ce qui a donné des années universitaires hachées de grèves et de manifestations. En fait, ça faisait 2 ans qu'il y avait toujours des grèves chez les étudiants, mais pas chez les lycéens, en fait. C'était ça, la nouveauté.
Des manifestations, en fait, un peu comme celles qu'on a eues, nous, quand il s'est agi d'harmoniser le système français avec
oui.
Système LMD, quoi.
Voilà, et même la LRU, c'est aussi ça va aussi dans ce sens, quoi. C'est une application française des accords de Bologne. Et donc ça, c'est important, en fait, l'idée d'appliquer des principes européens ou mondiaux. Et la Grèce, elle participe de ces courants politiques comme les autres. Notamment en ce qui concerne l'université, mais aussi les principes du libéralisme, c'est-à-dire enfreindre le moins possible tout investisseur dans ces démarches. Et l'exemple frappant, c'est qu'ils ont vendu la gestion du port de Pirée à une entreprise chinoise.
Voilà. Ah oui. Alors, je vais faire un petit écart avec la deuxième partie, mais en fait, j'ai entendu qu'il y avait eu la proposition d'un député allemand, cette semaine, pour renflouer la dette de la Grèce, un député allemand qui a proposé de vendre le Parthénon.
Voilà.
Aussi de vendre des îles. Ouais.
Mais ça fait penser beaucoup au plan d'ajustement structurel pour les pays d'Afrique où il faut vendre les écoles, il faut vendre pour renflouer les caisses de l'État, mais ça paraît un peu...
Et vendre des pierres, parce que la Grèce, finalement, elle a des îles, elle a des pierres, donc tout peut devenir des marchandises, quoi. Tout peut s'acheter, tout peut se vendre.
Voilà, on va en revenir dans une deuxième partie où on va parler plus de la Grèce aujourd'hui. Avant ça, j'aimerais aborder un peu l'analyse qu'on peut faire de ce mouvement. Et en particulier, il y a eu, il n'y a pas très longtemps, un colloque qui s'est tenu à propos des actions collectives insurrectionnelles dans une perspective comparative. Donc c'était vraiment ça le sujet, quoi. C'est ces révoltes-là, ça s'est passé en Grèce. Et un des participants a été interviewé par Statis Kouvelakis. On peut retrouver l'interview dans la revue électronique Contre-temps.
Parce que, en fait, l'idée de... C'est intéressant cette idée de colloque parce qu'effectivement, on voit que finalement tous les pays européens de l'Union européenne sont soumis aux mêmes mesures qui vont dans le sens d'une libéralisation et que partout il y a des contestations. Quoi.
Ouais.
Donc, effectivement, c'est intéressant de comparer ce qui se passe dans les différents pays. Et alors, les conclusions là, de ce colloque
En ce qui concerne la Grèce et pour ce grec, lui, il considère que ce mouvement c'était entre l'émeute et la révolution. Donc pourquoi entre l'émeute et la révolution ? Donc par exemple, on l'a beaucoup comparé à ce qui s'est passé en France peu de temps avant les émeutes de banlieue en 2005.
Donc nous, des émeutes. Hein.
Voilà, nous on appelle ça des émeutes. Et c'est des émeutes parce que c'est restreint à un quartier en fait. Pas un quartier, mais ça s'étend pas au pays. Et là, au contraire, ça a débordé très largement le quartier d'Exarchéia. Donc, excusez-moi pour mon accent, mais ça a débordé largement et ça a envahi toute la Grèce. Mais c'était pas une révolution non plus, parce que il y a des moments où on savait pas à quel point ça allait être important. Parce que le moment où les acteurs devaient clarifier les buts et poser les objectifs, ce moment de politisation ne s'est pas produit. Ça a fait comme un point d'inflexion après lequel l'action s'éternit. Pour que l'action prenne une ampleur plus grande, atteigne le stade d'insurrection véritable, de révolution, c'est le problème de l'expression de la mise en valeur de l'énergie mobilisatrice qui se pose et voilà, qui n'a pas été résolue.
Il faut que la révolte en fait, se traduise dans le champ politique.
Voilà, en fait, c'est l'idée qui ressort de la réflexion de ce grec. En fait.
Et alors, pourquoi elle n'a pas atteint ce stade de révolution et de traduction dans le champ du pouvoir, en fait.
Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, mais il soulève le fait qu'il n'y a pas d'outil politique par lequel c'était possible. Que les outils politiques, ils sont très distants de la société, en fait. Les partis, ils ne sont pas dans la société, notamment chez les lycéens, en fait. C'est deux mondes différents.
C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui étaient dans la rue... Ceux qui protestaient, ils ne se sont pas, ils sont pas investis dans les structures, les structures de protestation traditionnelles, type parti, syndicat.
Voilà. Et même au contraire, les structures traditionnelles, on peut le voir dans l'autre sens, ils ont aucune personne dans leur sein qui sont dans
aucune
les.
Aucune prise sur la société.
Voilà. Voilà. Donc ça, c'était. Bref, c'est un constat. Après, ça explique pas pourquoi on n'est pas capable de les créer. Une semaine. C'est un peu compliqué, mais de créer ces structures au moment opportun. C'est aussi. Il explique aussi. C'est plein de contradictions, mais que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu ces structures qui a fait l'insurrection. Parce que c'est normal dans une société qu'il y ait des moments où il y a de l'émotion, qu'il y ait de la colère, mais normalement, il y a aussi des moyens pour canaliser ou pour faire ressortir, pour faire...
Exprimer tout simplement des moyens d'expression.
Et puis rendre justice, c'est le but, quoi. Mm-hmm. Et là, il y avait pas du tout d'outils et c'est ça qui a donné que la situation devienne explosive, quoi.
Mais en fait, finalement, d'après cette analyse, si je comprends bien, l'absence de structure de canalisation de cette révolte, ça explique à la fois qu'elle se soit propagée, mais ça explique à la fois qu'elle n'ait pas abouti à une traduction politique, finalement.
Ça explique pas. Moi, je pense qu'il y avait aussi la possibilité que ça se forme. Chez les mouvements étudiants, il y a eu très, très rapidement des coordinations nationales, des choses comme ça. Mais là, effectivement, il n'y a pas eu formalisation d'objectifs par ce mouvement, quoi. Ce qui n'est pas évident. C'est resté sur le cadre de la colère. Alors que c'était possible de dépasser ça, en fait. Enfin, tout est possible. Bon, et puis, alors, je voulais juste insister sur un autre aspect de ce mouvement, c'est qu'il a fait peur. Il a fait extrêmement peur dans toute l'Europe. En France, il y a eu beaucoup d'articles sur ce qui s'est passé en Grèce. Est-ce que ça allait être contagieux, du fait peut-être des émeutes de banlieue avant.
Et on a beaucoup dit d'ailleurs que le président Sarkozy avait renoncé à la réforme du lycée parce qu'il avait peur que la France ne s'embrase à cause de l'exemple grec.
Voilà. Et donc, Voilà, ça fait en fait exactement un an et c'est intéressant de voir ça parce que c'est encore dans les mémoires des Grecs, des Grecs qui retournent dans la rue et qui ont de bonnes raisons pour. On va voir ça après une pause musicale.
Jusqu'à 19h, émission qu'on peut aussi écouter sur le blog de l'émission audioblog.arteradio.com/panthère-rouge. Alors, la Grèce, donc, qui fait figure un peu de laboratoire insurrectionnel de l'Europe, est de nouveau dans la rue cette semaine.
Oui, alors pourquoi ? Bon, pour une toute autre raison, ce n'est pas la mort d'un adolescent, mais cette fois-ci un plan d'austérité voté par le gouvernement qui vise à rembourser les titres de la dette. Alors, on pourrait se demander, peut-être tu te demandes.
Mais oui, mais alors pourquoi, hein ? Donc, la Grèce est très endettée, mais alors en situation de quasi-faillite, pourquoi cette situation ?
Alors en fait, il y a deux aspects. Il y a le fait qu'il y a la dette en elle-même, mais il y a le fait qu'il y a eu une spéculation, ou en tout cas attaque sur le plan financier, des titres de la dette de la Grèce.
Il faut quand même expliquer aussi pourquoi peut-être ces pays, pays d'Europe et de la Grèce en particulier, sont si endettés aujourd'hui.
Oui, et bien pourquoi ? Et bien à cause de la crise financière. En fait, la crise financière pour répondre à la crise financière, les États ont injecté de l'argent dans les banques pour les sauver. Finalement, elles ont, si la dette existe, enfin si la dette c'est vraiment... accru ces trois dernières années, là, ces deux dernières années, c'est vraiment pour la sauvegarde des banques. Et en fait, on peut voir au niveau européen que pour chaque pays, la dette a augmenté de 20 à 40% à cause de ça. Après, en fait, ce qui est intéressant sur la dette de la Grèce, c'est qu'elle n'a rien d'extraordinaire. quand on regarde les chiffres de la dette, donc des différentes années, là, 2007, 2008, 2009 et 2010, c'est des prévisions, mais en gros, ça va être ça. On voit que, ben, d'abord, l'endettement, l'augmentation de l'endettement pour la Grèce, elle a été de 21%, et c'est moins que la France, par exemple, oui, qui a un taux d'augmentation de 27%, et moins que la moyenne européenne, qu'un taux de 26%. Alors c'est vrai qu'elle était partie de plus haut. Et donc elle a atteint en 2010 une dette de 115% de son PIB. Mais ça, c'est encore moins que l'Italie. L'Italie est endettée à 116%, et puis on ne parle pas de l'Irlande.
Ça veut dire que là, ce qui se passe en Grèce, en gros, ça préfigure un petit peu ce qui va sans doute se passer pour d'autres pays européens.
Ben oui, il n'y a pas vraiment de raison, en fait. Là, moi, ce que je comprends vraiment, c'est qu'on a décidé, il y a eu des stratèges financiers qui se sont dit, on va s'attaquer au plus faible, enfin, un pays plutôt faible, et on va choisir la Grèce. Et pourquoi ? Moi, je pense que l'élément... d'émeute insurrectionnelle là qui a eu l'an passé, ça peut être un élément qui a motivé un peu plus les investisseurs à s'attaquer là-dessus, parce qu'il y a vraiment eu attaque, hein, au-delà du fait de l'augmentation de la dette, il y a eu des attaques pour sur le marché obligataire et la monnaie, quoi.
Donc en fait, en gros, si je comprends bien, les banques menacent de s'effondrer, l'État vient à leur secours, les États viennent à leur secours, donc ce qui évidemment creuse les déficits. Et à ce moment-là, lorsque les États sont vulnérables, finalement, les marchés financiers spéculent et exigent le remboursement.
Voilà, spécule. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment le terme de spéculer, mais vraiment, c'est l'idée d'attaquer le pays, quoi.
D'accord.
D'attaquer le titre de la dette de la Grèce, quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait facilement quand on a de l'argent. Il suffit de spéculer à la baisse. Enfin, voilà, il suffit de prendre des positions à terme en ce sens et puis de provoquer le mouvement de baisse. Enfin, bref, ça se fait, quoi.
Ça se fait et c'est légal. Il n'y a pas de règles. Parce qu'en fait, moi, il me semblait que lorsque la crise économique a éclaté, en fait, les différents chefs d'État, et en particulier de l'Union européenne, devaient moraliser le capitalisme et puis émettre des règles pour justement essayer de réguler un peu en matière financière.
Mais en fait, surtout pour ce qui est de l'Europe, et ça c'est marrant parce que même les économistes de droite, ils vont le reconnaître que il y a pas de cohérence, que il y a différentes forces qui sont en compétition au sein de l'Europe, ce qui fait qu'on n'a pas une politique monétaire cohérente et stable, contrairement aux États-Unis avec leur banque fédérale qui est stable. Enfin, c'est vraiment la banque des États-Unis et il y a une logique derrière, quoi. Et en Europe, pas du tout. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée de bien faire, mais c'est pas possible. En fait, ça a été mal fait depuis le début. Enfin, c'était pas le but, quoi.
Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que même si les chefs d'État... En supposant qu'ils aient la volonté politique, en fait, d'émettre des outils de régulation, finalement, ils ne pourraient pas le faire puisque il n'y a pas de coordination.
Oui, et puis, la structure, comment s'est constituée l'Europe, le fait que la banque est censée être indépendante, tout ça fait que le fonctionnement est comme ça et pas autrement, en fait. Il ne suffit pas de faire des discours devant des millions de téléspectateurs pour changer les choses. Et, bref, en tout cas, au niveau économique, rien n'a été changé sur le fonctionnement. Enfin, on le voit bien, en fait. Là, on a plein d'exemples qui montrent que non, ça ne marche pas.
D'accord. Et alors, conséquence de ce plan d'austérité contre lequel les Grecs... manifester, puisque en fait ils ont manifesté jeudi, il y a une grève générale contre le plan d'austérité qui vise à renflouer la dette. Quelle va être la conséquence un peu pour les Grecs?
Alors, en fait, je pense que tu as plus d'informations là-dessus, mais le plan d'austérité, il est vraiment très austère. Pour eux, individuellement dans leur vie, c'est... Il y a des mesures comme le gel des retraites, le fait que les fonctionnaires ont un salaire qui diminue d'un tiers. Mm-hmm. Enfin, peut-être d'ailleurs, t'as des précisions à rajouter.
Ouais, au fait, moi j'avais entendu hein, que évidemment, donc plan d'austérité. Alors ça, c'est aussi un euphémisme pour dire que la situation sociale va être catastrophique. Hein. Effectivement, il y a des mesures qui vont toucher tout le monde, mais en plus, l'application de ce plan s'avère particulièrement injuste socialement, puisque par exemple sur la fiscalité, les mesures fiscales qui sont prises visent la fiscalité indirect, c'est-à-dire les taxes à la consommation, quoi. Ce qui est le plus injuste, parce qu'évidemment, quand vous avez de l'argent, vous pouvez beaucoup plus consommer. Donc, par exemple, le prix des cigarettes va augmenter de 60%. Autre chose, ce sont les fonctionnaires, les salariés qui vont payer le prix, puisque, par exemple, les professions libérales sont peu touchées par les mesures de baisse des salaires, ben forcément. Hein. Les fonctionnaires vont perdre 30 à 40% de leur salaire.
Et les congés.
Alors voilà, les congés payés sont remis en cause. C'est-à-dire qu'il y aura une baisse de moitié des congés payés. Alors les congés payés en Grèce, ça date des années 50, hein, comme dans beaucoup de... Enfin bon, nous, c'était en 36, hein, on anticipait un peu. Mais bon, les congés payés, il me semble que c'est quand même un acquis, comme les retraites, quoi, un acquis social qui est une conquête... qui a nécessité des décennies de combat et à mon avis quand même très grave de le remettre en cause, d'autant plus que on va pas revenir en arrière. Enfin, c'est plus facile de prendre cette mesure, hein, évidemment, que de conquérir des droits, quoi.
Mais en tout cas, ça, en fait, tous ces aspects, ça nous renvoie à des aspects en France qui sont aussi attaqués, autant la fonction publique, l'enseignement. En fait, la réduction de postes pour tout ce qui est enseignement, mmh. Et les réformes de l'UFM, tout ça. Et également le fait de remettre en cause les retraites. Enfin, on les gèle pas, mais bon, c'est la même idée, quoi. On voit bien que ça nous renvoie à nous, quoi.
Et puis c'est vrai que cet épouvantail de la dette, sans dire finalement, enfin, c'est quand même. C'est absolument révoltant de se dire que ce sont les États qui sont à la solde des marchés financiers. Et encore une fois, après avoir renflé le déficit des banques, se dire que ce sont la population, finalement, qui doivent encore payer. Et c'est vrai que ce discours de la dette agitée comme un épouvantail est vraiment passé...
Et
passer vraiment dans le discours politique.
Oui, c'est scandaleux. Ouais. Non, mais surtout que cette idée de titre pourri, enfin, je sais plus, en fait, c'est comme ça qu'on dit en anglais, il doit y avoir une autre façon de dire en français, mais c'est les banques possèdent des titres qui valent rien, quoi. Mm-hmm. Et normalement, on devrait juste dire, bon, ben, ici, sur ce compte, on met zéro. Et non, c'est pas ce qu'on fait, en fait. C'est juste un phénomène. Enfin, on oublie ça, le fait qu'à un moment donné, on a démontré que ces titres, ils valaient rien. Mm-hmm. Et voilà, en fait, c'est toujours les mêmes qui payent, quoi. Voilà, et alors, t'as d'autres questions ?
Oui, mais alors par rapport à ce mouvement de protestation, j'ai entendu aussi que donc le Portugal hein, s'était mobilisé la veille, hein, le jeudi, il me semble, la Grèce le vendredi, exactement pour les mêmes raisons, puisque le Portugal est également très endetté. Hier, il y a eu le référendum en Islande. Alors, l'Islande ne fait pas encore partie de l'Union européenne, mais vraiment est en cours d'intégration. Référendum par lequel les Islandais ont exprimé à 93% leur opposition à un plan. Un plan d'austérité pour rembourser la dette. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être l'émergence quand même d'un mouvement citoyen à l'échelle européenne pour protester au-delà de la protestation contre ces plans d'austérité, pour protester finalement contre le système financier.
Oui, parce qu'en tout cas, en face à eux, il y a vraiment... le cas de la Grèce, c'est comme un message envoyé à tous les gouvernements pour dire maintenant il faut y aller, il faut avoir une politique d'austérité budgétaire. Quoi.
Ouais, envoyé par les marchés financiers, tu veux dire ?
Oui, envoyé par les marchés financiers qui d'ailleurs, là pour le cas de la Grèce, il faut quand même insister sur le fait que pendant ces 15 jours, ils ont eu des profits spéculatifs sur la dette, le titre de dette de la Grèce. Quoi. Et donc, bien sûr, en fait, moi je suis tout à fait d'accord avec toi que ce serait logique, ce serait normal, ce serait bien, c'est nécessaire qu'il y ait un mouvement européen face à ça, quoi. Mais parce qu'il y a une cohérence.
Mais le problème aussi, c'est que il y a le cas. Donc, on voit que les Portugais, les Islandais, les Grecs étaient dans la rue cette semaine, mais en même temps, l'opinion publique allemande, par exemple, était très hostile à l'aide apportée éventuellement par le gouvernement allemand aux Grecs. Hein, c'est-à-dire que Angela Merkel, donc elle, qui s'est opposée hein, au soutien financier à la Grèce hein, et qui a approuvé hein, ce plan d'ajustement, ce plan d'austérité, pardon. Angela Merkel répondait finalement à l'opinion dominante en Allemagne hein, qui était on ne va pas payer les retraites des Grecs, on ne va pas payer les vacances des Grecs. Donc finalement, cette coordination des opinions européennes, on voit que on a l'impression qu'elle peut se réaliser seulement quand les pays sont en situation de quasi-faillite, ce qui n'est pas encore le cas de l'Allemagne.
Oui, mais moi, je pense que dans des situations comme ça, très dures, très fermes, où les gouvernements ils veulent vraiment rien lâcher par rapport à nos acquis, par rapport aux travailleurs, dans ces périodes-là, ils sont obligés en même temps d'avoir un discours supernationaliste pour justifier le fait qu'il faut serrer la ceinture, quoi. Donc forcément, à la fois il y aura une envie quoi, de faire quelque chose, mais à la fois il y aura les courants nationalistes, les courants un peu racistes primaires qui vont surgir, quoi, c'est sûr.
Oui. Après bon, je ne sais pas si cette opinion des Allemands, elle ne dépassait pas quand même le cadre des courants nationalistes, mais enfin, je pense que ce n'est pas encore
gagné. Non, mais en fait, au-delà des courants nationalistes, on voit bien le discours de Nicolas Sarkozy, en fait, même des gouvernements pas fichés extrême droite, quoi. Ils ont des tendances à revendiquer d'être français. À des moments dans l'histoire.
Quand ça les arrange. Ouais.
Voilà, et justement pour faire accepter le fait qu'il faut serrer la ceinture. Et alors, juste pour conclure, ou je peux conclure, ou tu as d'autres questions? Donc, moi, pour cet aspect, j'ai lu un article très intéressant. Donc, c'était un article écrit par François Chénier, un économiste sérieux, un universitaire qui avait travaillé pour les CDE, qui était aussi militant altermondialiste. Marxiste, etc. Et donc, il a écrit un article sur sa revue Carré Rouge. Et je vais juste, pour conclure, lire son intro, parce qu'elle résume quand même pas mal les choses. « Ce qui se joue actuellement en Grèce concerne les salariés et la jeunesse dans toute l'Europe, à commencer par la France, où ils sont confrontés à un gouvernement particulièrement vicieux. La Grèce est un terrain d'essai. Le but est la mise en œuvre générale à l'Europe de mesures drastiques d'austérité budgétaire. Les agents de la fonction publique en particulier sont dans la ligne de mire. »
Ouais, qui est très très rassurant.
Madeleine, j'apporte du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir, j'attends Madeleine. On prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tout ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir, j'attends Madeleine. On ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça. Elle est tellement jolie. Elle est tellement, tellement tout ça. Elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine. Mais il pleut sur mes lilas. Il pleut comme toutes les semaines. Et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine. C'est trop tard pour le tram 33. Trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon. C'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine. Il me reste le cinéma. Je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine l'aime tant ça. Elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça. Elle est toute ma vie. Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir j'attendais Madeleine. Mais j'ai jeté mes lilas. Les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas. Ce soir j'attendais Madeleine. Tiens, le dernier tram s'en va. On doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique, moi. Mais sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Gaspard. Ce soir j'attendais Madeleine. C'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie. Elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas, mais Demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Tant pis si elle revient pour moi, comme disons nous Saint-Joël. Demain, j'attendrai Madeleine, ouais, on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime, Madeleine, elle aimera ça.
Vous écoutez Radio Campus, l'émission Panthère Rouge, et on enchaîne avec notre chronique Femmes super-héros, réalisée par Cécile.
Oui, alors voilà, donc on vient d'entendre Madeleine Debrel, parce que je voulais vous parler d'une femme super-héros, en tout cas pour moi, qui était Madeleine Rebériot. Alors Madeleine Rebériot, c'était une historienne qui est morte il n'y a pas longtemps, en 2005, elle était née en 1920. Et en fait, je l'ai choisie parce que finalement, je trouve que c'est vraiment une femme qui a été engagée dans son époque, des années 20 jusqu'à sa mort. Qui a vraiment été qui a pris part à tous les combats de la deuxième moitié du XXe siècle. Et surtout, dont la vie finalement a tenté d'articuler l'engagement citoyen, la recherche, l'enseignement, le fait donc de transmettre ce qu'elle savait, et puis sa vie de femme aussi, sa vie personnelle, et je trouve qu'elle a pu donner une cohérence à tout ça.
Donc une super-héros.
Ouais, une femme super-héros et à la fois aussi vraiment sympathique, parce que aussi pour vous dire, les gens qu'on admire, là je fais un peu un exercice d'admiration, en particulier les universitaires, les chercheurs, bon, on a toujours un peu une image austère de ces gens, quoi, parce qu'ils nous fascinent par leur savoir, mais alors elle, c'était vraiment le bonheur de communiquer. Et en fait, moi j'ai eu la chance de la voir en conférence à Clermont, parce qu'elle a vécu une partie de sa vie à Clermont-Ferrand. Et elle avait près de 80 ans quand je l'ai vue, et elle était mais vraiment pétillante, quoi. Vous voyez, cette petite bonne femme, bon, quand même très très âgée. Et alors elle nous disait, bon, à l'époque, c'était dans l'année 90-2000, quoi, donc quand le Front National était en pleine ascension. Alors elle nous disait, ah non, mais les jeunes, hein, contre le Front National, faut être génial. Il n'y a pas à tort, faut être génial. Enfin bon, elle avait vraiment une sorte d'énergie communicative. Et puis, ben évidemment, c'est quand même aussi un parcours exceptionnel d'une jeune fille et d'une femme dans le monde intellectuel, parce que, comme je dis, elle est née en 1920. Et par exemple, ça a été la première jeune fille à être reçue au concours général d'histoire. Elle a remporté le premier prix. C'était la première fois qu'une jeune fille le remportait. Donc, elle a fait des classes préparatoires, justement, au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, puis ensuite donc elle a choisi l'histoire. Alors elle dit qu'elle a choisi l'histoire parce qu'elle trouvait que l'histoire ça permettait de rendre les gens intelligents. Alors attention, elle ne trouvait pas que tous les historiens étaient intelligents, loin de là, mais elle disait ça permet de rendre les gens intelligents. Et quand elle a fait de la recherche, elle avait des profs masculins, parce que, évidemment tous les universitaires à ce moment-là, enfin la plus grande partie étaient des hommes. Et elle a travaillé en particulier avec un prof éminent qui était Georges Lefebvre, et alors qu'il disait, mais quel malheur d'avoir des élèves filles, quel malheur, parce que vous, évidemment, Madeleine, hein, vous allez vous marier, vous allez faire des enfants, et vous allez faire une croix sur la recherche. Alors, j'aurais juste vous faire entendre ce qu'elle disait, justement, des femmes.
Enfin, moi, je pense que rien n'est contradictoire dans la vie, quand on veut vraiment faire quelque chose. Il faut avoir des enfants, s'occuper de la maison, faire la cuisine, lire des romans, lire des poèmes, enseigner et militer. Voilà. Et si on n'est pas capable de faire tout ça, ça ne vaut pas la peine de vivre.
Elle est exigeante.
Oui. C'est les femmes qui sont capables de faire tout ça. C'est ma seule manière d'être féministe. C'est, je pense que les seules qui sont capables de tout faire, c'est les femmes.
Voilà, alors elle, voilà. En fait, elle dit que pour elle, c'est la seule manière d'être féministe. Alors, elle a fait 4 enfants, elle a milité, enseigné, et c'est rigolo, parce que, alors, bon, évidemment, ça fait un peu, cette formule, elle est un peu péremptoire, quoi, parce qu'on se dit, je pense qu'on va être beaucoup à se dire, bon, ben, moi, c'est pas la peine que je suis vive, parce que j'ai pas encore fait tout ça, hein, ça viendra peut-être, mais voilà, quoi, elle veut renoncer à rien, en fait, et c'est ça que j'aime bien. Elle a participé à l'émergence d'une histoire des femmes, hein, dans les années 60-70, avec d'autres. Donc Michel Perrault, etc., quoi, qui ont fait une histoire des femmes en France, parallèlement à ce qui se passe aux États-Unis. Mais par contre, elle craignait que le mouvement féministe, justement, isole les femmes. En gros, il fallait qu'elle milite dans un mouvement qui ait vraiment un fort écho dans la société, dans la population. Alors, elle défendait les minorités, bien sûr, hein, les femmes, puis bon, surtout, elle s'est beaucoup engagée dans le mouvement anticolonialiste, mais hein, il fallait que son engagement à elle, là où elle se donnait complètement, ce soit plus large. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'est engagée dans le Parti communiste en 1946, parce qu'à l'époque, c'était le premier parti de France. Hein. Et donc, elle trouvait là vraiment un combat qui avait pris sur une grande partie de ses contemporains. Et justement, elle s'est engagée en 1946 et pas pendant la résistance. Alors, je voudrais aussi qu'on entende pourquoi, finalement, elle n'a pas résisté.
Vous n'avez pas été en situation de rencontrer la résistance?
Si, tout à fait. Mon beau-frère était résistant et communiste. Mon frère a été arrêté sans être résistant, mais il était arrêté à cause de mon beau-frère et déporté. Parce que ma mère a refusé de livrer ma sœur à la Gestapo. Et donc, ils avaient arrêté mon frère qui avait 17 ans et ils l'ont déporté pour cette raison-là. Alors qu'il n'était pas du tout dans la résistance. Mais si, tout à fait. Mm-hmm. Mais... je n'ai rien fait d'important dans la résistance. J'ai fait des petites choses comme tout le monde, caché des enfants juifs, oui, des petites choses de ce genre. Mais j'ai absolument rien fait d'important parce que, justement, le type de résistance que j'ai rencontré, c'était les communistes et que leur manière de s'exprimer et de se définir dans la résistance n'était pas la mienne. Voilà, je ne supportais pas qu'on appelle les Allemands Bosch, c'est aussi bête que ça. Voilà. Je ne supporte pas ça. Voilà.
Alors, voilà, elle ne supporte pas qu'on appelle des Allemands Boches pendant la guerre, quoi.
Parce que c'est le racisme, elle veut pas être raciste.
Ouais, oui, et en fait, bon, alors nous, comment dire, quoi. Là, ouais, on est en 2010, enfin, il y a... Bon, je veux dire que c'est facile de dire oui, c'était pas bien d'appeler les Allemands Boches, mais quand même pendant la Deuxième Guerre mondiale, avoir cette réaction-là, alors qu'elle est dans une famille qui est vraiment impliquée, enfin, comment dire, même malgré elle, hein, son frère donc, a été pris finalement comme otage à la place de sa sœur. Bon, elle est entourée de communistes qui résistent et c'est pas par manque de courage qu'elle le fait pas, mais elle ne supporte pas qu'on appelle les Allemands Boches, elle supporte pas d'être anti-allemand. Et ça, c'est quand même assez fort. Quoi. Ça fait penser un peu à la lettre de Manouchian qui laisse, hein, qui dit, celle qui a été reprise par Léo Ferré, hein, « Je n'ai pas de haine en moi contre le peuple allemand ». Bref, et donc elle s'engage seulement en 1946, et pour elle, l'engagement dans le Parti communiste, c'est un engagement sur tous les plans. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas rester comme ces intellectuels dans leur tour d'ivoire, hein, à écrire des textes théoriques, pas du tout, c'est un engagement sur le terrain et un engagement syndical. Elle exclut du PC en 1969, hein, comme beaucoup, bon, parce que elle a, enfin, vous voyez, elle a une force, disons que elle se plie pas, hein, évidemment, aux règles du parti, et puis elle fréquente des gens qui ont rompu avec le parti. Mais par contre, elle assume totalement son engagement, quoi. C'est-à-dire qu'elle regrette pas, et même après avoir été exclue, elle assume, quoi, cet engagement, et toute sa vie, finalement, si on l'écoute, hein, si on écoute par exemple les interviews là dont on diffuse des extraits, c'est une sorte de bréviaire de l'engagement. C'est-à-dire que cette femme, dans sa vie, il y a en permanence la question comment finalement faire avec les tensions et les contradictions inhérentes à un engagement et à un militantisme. Parce que pour elle, il ne s'agit pas d'appliquer une doxa, il ne s'agit pas d'appliquer les ordres du PC. Quoi, vous voyez, c'est vraiment discuter. Et dans ses différents engagements, elle va se retrouver aussi avec des gens qui ne pensent pas comme elle et qui ne viennent pas du tout des mêmes milieux idéologiques, notamment des chrétiens, hein, des gens de la démocratie chrétienne. Parce que le grand engagement de sa vie, c'est l'anticolonialisme. Alors elle dit, moi, quand j'avais 10 ans et qu'on fêtait le centenaire de la conquête de l'Algérie, on était en 1930 à l'époque, elle dit, j'avais 10 ans, je supportais pas qu'il y ait des peuples qui dominent et d'autres qui soient dominés. Et l'anticolonialisme, ça a vraiment été son grand engagement. En 57, elle crée un comité de défense des libertés contre la guerre d'Algérie et elle participe au comité Maurice Audin. Maurice Audin, en fait, c'était un professeur de mathématiques qui était dans le PC en Algérie, hein, et qui a été arrêté, un grand universitaire. Il a été arrêté, il a été torturé sur les ordres du général Massu, sans doute, et il est mort. Et en fait, l'armée française a fait croire à une tentative d'évasion, c'est-à-dire a dit, hein, qu'il s'était échappé de la voiture dans laquelle on le transportait. Il savait en fait, hein, qu'il est mort sous la torture. Et en fait, certains militants se sont emparés de cette affaire Maurice Audin. Donc d'abord dans les milieux universitaires, hein, avec Madeleine Robert-Hugues, d'autres, hein, Pierre Vidal-Naquet aussi, qui était un grand historien. Et en fait, il s'agissait de se saisir de cette affaire particulière pour démontrer comment fonctionnait la torture et pour dénoncer la torture globalement. Et c'était une stratégie, en fait. Hein, c'est comme quand Zola organise un procès, enfin, comment dire, provoque un procès, son propre procès en publiant J'accuse, pour essayer de faire la lumière sur l'affaire Dreyfus. Et,
Attends, juste, je te coupe. T'as dit qu'elle était confrontée à d'autres idéologies, les chrétiens, et là, j'étais perdue, en fait.
Ouais.
Parce que c'est parti sur le colonialisme.
C'est peut-être pas très clair. Par exemple, dans le comité Maurice-Audin, il n'y a pas du tout que des communistes. Hein,
voilà, hein. D'accord.
Donc, il y a aussi des gens qui viennent de la démocratie chrétienne. Bon, il y a des gens de toute sensibilité. Et en fait, voilà, c'est l'engagement pour elle, ça suppose de se heurter aux réalités, se heurter aux contradictions et une sorte de débat permanent. Et voilà, j'aime bien comment justement elle arrive à faire face à ces contradictions. Par exemple, elle parle aussi des contradictions entre le fait d'être engagée à l'époque au PC et le fait d'enseigner l'histoire quand elle est au lycée.
J'ai adhéré au Parti communiste en 1946. Et donc, j'ai fait de la perspective révolutionnaire ma perspective, mais je ne voyais pas en quoi ça me détournait de rendre mes élèves intelligents. Je dirais au contraire. Au contraire. On n'est pas obligé, parce qu'on a des classes de terminale, de dire aux adolescentes ce que racontait le parti à l'époque, savoir que Trotsky était un monstre et Staline un génie. Pas du tout, je leur disais. Il y a eu deux voies dans l'histoire de la révolution soviétique, ces deux voies apparaissent très tôt, comme, non pas antinomiques, mais enfin, pouvant devenir antinomiques à partir de 1923, et puis je leur expliquais ça. Et donc, faire apparaître les contradictions dans ce qui est donné comme un tout admirable, moi je n'étais pas très pro-soviétique en plus. J'avais beaucoup d'amis trotskistes et je n'étais pas très proche de l'Union soviétique, pour dire l'exacte vérité. Mais enfin, le problème n'est pas là. Faire apparaître les contradictions, c'est ça rendre les gens intelligents. Ce n'est pas leur décrire le bonheur. Dans la commune, ce qui est le bonheur, c'est d'enseigner. C'est de faire percevoir aux gens les contradictions. De les mettre eux-mêmes, alors qu'ils sont encore des enfants ou des adolescents, devant les contradictions qu'ils auront à résoudre plus tard. Qu'ils seront, comme on dit à l'époque, dans la vie réelle. Aujourd'hui, on est dans la vie réelle tout le temps. Mais ça, à l'époque, le lycée était un monde clos encore, sauf la petite May, et puis les fillettes qui sortaient de camps de concentration, ou les enfants d'ouvriers, il y avait quand même une de mes élèves de l'époque, et son frère était au mine de potasse, était ouvrier dans la potasse. Donc il y avait quand même des enfants d'ouvriers, mais nous, classe ouvrière un peu
fortunée
déjà.
Dans le débat sur...
Pas le textile mulhousien, le textile mulhousien, les enfants n'allaient pas au lycée, ça je vous en réponds. Il faut avoir vu ce que c'était que le textile à Mulhouse. Il faut avoir circulé dans la cité d'Olfus pour prendre conscience de ce qu'est le capitalisme. Et pourtant, ces protestants mulhousiens pensaient qu'ils avaient fait du bien à leurs ouvriers. Mais quand vous aviez devant vous ces générations qui avaient 10 cm de moins que tous les autres, qui étaient maigres, qui étaient non pas ce qu'ils faisaient eux-mêmes en 47 ou 48 ou 49, 50, mais ce que leurs parents avaient été. Ah non! Il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans la vie. Quand on a vu ça, c'est fini. Il y a un trait tiré. On ne sera plus jamais du côté du camp du capitaliste.
Voilà. En fait, là, pour contextualiser un peu, elle parlait de ses années d'enseignement à Mulhouse. Et à l'époque, à Mulhouse, c'était encore une ville textile. Et elle était dans des classes de filles, lycée de filles. Effectivement, les filles d'ouvriers textiles n'allaient pas au lycée. Alors, voilà, elle dit ça. Quand on a vu ça, quand on a vu dans ces cités... des enfants de 10 cm de moins que les autres, non pas parce que. Qui finalement supportaient l'héritage de ce que leurs parents avaient été, on ne sera plus jamais dans le camp du capitalisme. Voilà, c'est un peu ça l'engagement de Madeleine Rubéo, c'est-à-dire cette espèce d'articulation toujours entre l'engagement et la vie. Et aussi le bonheur d'enseigner. En fait, ce que j'aime bien aussi chez elle, c'est qu'elle a su conjuguer la rigueur intellectuelle, l'exigence scientifique et le bonheur de la transmission. Parce que sinon, la connaissance, ça se dessèche si on ne la transmet pas. Et à propos de sa vocation, elle disait cela aussi.
D'abord, je ne savais pas que c'était une vocation. À l'époque, les futurs agrégés, on avait un stage de 8 jours. Donc j'ai fait un stage de 8 jours au lycée Fénelon, je crois bien. Et le premier jour où j'ai mis les pieds dans une classe, j'ai trouvé que c'était génial. C'est là que j'ai découvert que vraiment enseigner, c'est quelque chose. Voilà. Et donc quand je suis nommé à Mulhouse, c'est la même chose. Je suis nommé dans un lycée de filles. Fénelon était aussi un lycée de filles. J'avais des élèves de 6e, de 4e, de 3e, de 1ère, de terminale, et j'étais le bonheur absolu. Voilà. C'est le bonheur absolu dans une société, la société mulhousienne, où il y avait effectivement peu de gens venant vraiment du peuple, qui rentrait au lycée, la classe, pour moi, ça a été le bonheur, tout de suite, intégral. Voilà. C'est-à-dire rendre les gens intelligents, voilà. En leur faisant aimer ce qu'on leur explique, et en utilisant tous les moyens possibles, l'image, la littérature, la comparaison, parler de la Commune de Paris, on n'en avait jamais parlé. La Commune était considérée comme un événement, un épisode fâcheux, c'est comme le colonialisme aujourd'hui. De même qu'aujourd'hui, l'étude du colonialisme a disparu des manuels français, au motif qu'il n'y a plus de colonies, pourquoi est-ce qu'on parlerait du colonialisme? C'est évidemment formule grotesque. Et de même, à l'époque, on ne parlait pas de la Commune. Puisqu'elle avait été écrasée, il n'y avait pas de descendants de la Commune.
Voilà, on ne parlait pas de la Commune, donc elle parle plutôt des années, des années tout de suite d'après-guerre, parce que comme les communards avaient été écrasés, il n'y avait pas de descendants, donc ce n'était pas la peine d'en parler. Le parallèle là, qu'elle fait avec le fait qu'on ne parlait pas non plus du colonialisme, puisqu'il n'y avait plus de colonies, l'interview date de 2000 ans. Aujourd'hui, justement, il y a quand même des historiens qui sont mobilisés pour que cette histoire ressurgisse, mais c'est tout à fait récent. Et d'ailleurs, Madeleine Robert-Hugues avait aussi initié ce mouvement. Et sur le bonheur d'enseigner, faut dire qu'après ses années au lycée, elle est allée à l'université Nanterre. Et Nanterre, tu vois, c'est vraiment une université qui a joué un rôle fondamental dans les moments de mai 68. Et le slogan, ensuite, après 68, à Nanterre, c'était « Enseigner autrement, autre chose et à des nouveaux étudiants ». Hein, ça veut dire aussi étudiants qui ne venaient pas forcément de la bourgeoisie parisienne, autrement en interdisciplinarité et autre chose, c'est-à-dire s'ouvrir à de nouveaux champs. Et Madeleine Robert-Hugues, elle a aussi participé de cette expérience.
Et pourquoi tu as choisi de parler d'elle? Est-ce que ça te renvoie à quelque chose en particulier?
Oui, personnellement, moi j'enseigne l'histoire aussi. J'enseigne l'histoire et c'est vrai que quand j'ai choisi de faire des études d'histoire, j'étais en train de lire un peu ce qu'elle avait écrit. Et par exemple, quand on lit ses bouquins, c'est marrant parce qu'il y a plein de points d'exclamation. Alors après, je pense que peut-être que certains diront que c'est vraiment...
C'est trop.
Oui, puis bon, que c'est pas orthodoxe sur le plan stylistique, mais ce qui est... Enfin, moi, ça me fait penser à elle, quoi. C'est-à-dire que ces points d'exclamation, je trouve que ça reflète aussi cet aspect pétillant, toujours, puis toujours en éveil.
Intransigeant aussi.
Intransigeant, non, mais dans les... Voilà, intransigeant, je pense, avec ses convictions, mais aussi dans l'écoute et dans le dialogue. Vraiment, tout le contraire du dogmatisme. Et puis cette énergie. Et aussi, je pense que... Parler d'elle et puis parler de son action et de ses écrits a une résonance particulière à notre époque. Alors par exemple, Madeleine Robert-Hugues, elle a été bloquée dans sa carrière pendant très longtemps. Elle ne pouvait pas accéder à l'enseignement en classe préparatoire, par exemple, parce qu'en 1947, au moment des grandes grèves de 1947, elle avait écrit dans un journal alsacien que Jules Moc, le ministre de l'Intérieur qui avait envoyé l'armée donc contre les grévistes, était un assassin. Et dans son dossier d'éducation nationale, c'était marqué « a traité le ministre de l'Intérieur d'assassin ». Et donc on invoquait cette espèce de devoir de réserve des fonctionnaires, alors qu'elle n'avait pas du tout prononcé ces paroles en classe, mais dans un journal, pour bloquer sa carrière. Je me demande bien ce qu'elle aurait pensé du devoir de réserve invoqué aujourd'hui par des gens comme Éric Raoult, qui prend des proportions mais carrément délirantes, puisque il l'a appliqué à une écrivain, donc Marianne Dieye, lauréate du prix Goncourt, qui avait donné une interview avant même qu'elle le reçoive, quoi. Donc une sorte d'application de manière rétroactive. Et puis, plus généralement, pour Madeleine Robert-Hugues, la République, ça ne peut pas se concevoir sans combat. Et à une époque finalement où se sentent vraiment impuissants face à l'ampleur des régressions sociales, de l'injustice, quoi, où l'énergie de la révolte finalement a laissé place à une sorte d'humour ou d'ironie désespérée, je pense que voilà, c'est aussi quelque chose qui nous rappelle que la détermination, l'énergie, elle est toujours là. Oh merde, j'ai pété. Non, let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies. Alors l'émission touche à sa fin, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir? Ah oui, il faut que je te demande, Cécile, qu'est-ce qu'il faut retenir de Madeleine?
J'ai oublié son nom.
Oui.
Madeleine comment?
Robert Hue.
Robert Hue.
Bah, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces recherches, elle les a, c'est que, à mon avis, c'est le présent qui éclaire le passé. On dit souvent que le passé donne des leçons au présent. Moi, je pense que c'est le contraire. Parce que quand elle a fait des recherches sur Jaurès, et sur le colonialisme, au moment où Guy Mollet, qui était un socialiste, menait la guerre d'Algérie, elle s'est dit, si un socialiste qui se réclame de Jaurès mène la guerre d'Algérie, une guerre anticolonialiste, bah, je vais vraiment essayer de savoir ce que Jaurès en a pensé. Et moi, je pense qu'à une époque où, par exemple, le président de la République n'arrête pas d'invoquer Jaurès, Léon Blum, faire une sorte de panthéon en reprenant comme ça des grandes figures de la gauche, bah, peut-être que ça peut donner vocation à des historiens en se demandant est-ce que vraiment Jaurès mérite, ou Blum mérite de figurer dans le panthéon de l'UMP.
Et alors sinon, dans cette émission-là, on a parlé de Grèce, et moi, si vous avez une chose à retenir, c'est travailleurs de tous les pays, unissez-vous, car ce qui se joue en Grèce, comme en Portugal, concerne les salariés et la jeunesse de toute l'Europe, mais c'est un classique, mais toujours d'actualité.
Oui.
Voilà, alors cette émission a été réalisée par Cécile, merci Cécile, Lise au micro, plaisir. Et Antoine aux manettes, merci Antoine.
Et je voulais simplement dire aussi que on peut retrouver sur le blog de l'émission certaines références, notamment des entretiens qui sont sur le site de l'INA dont on a écouté des extraits, et puis aussi d'un bouquin qui est paru l'an dernier qui s'appelle « Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire » qui reprend, donc c'est un collectif d'historiens très pointus qui reprennent chaque référence que Nicolas Sarkozy a utilisée dans ses discours pour en expliquer finalement refaire ressurgir la vérité historique et expliquer ce qu'ont fait ces personnages ou quel a été le rôle de ces événements et de ces lieux qui sont utilisés politiquement par le président de la République.
Et donc ceci, c'est sur le blog audioblog.arteradio.com/panthère-rouge. Voilà, donc on a entrecoupé nos propos par quelques musiques. Il y avait Madeleine de Brel, Lilliput Orchestra et la chanson des Canuts par François Dumont d'Ayot. Alors enfin, vous pouvez nous écrire si vous avez envie, si vous voulez nous écrire des lettres d'amour ou plutôt politiques, comme vous voulez, pour faire vos critiques. L'adresse, c'est Panthère Rouge tout attaché, 93.3 en chiffres, @gmail.com. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, comme dit l'ami Colin, surtout ne lâchez rien.